Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui est parfois très triste, très peiné que certaines choses s'arrêtent. Par exemple, c'est avec une énorme déception que nous avons accueilli l'annonce de l'arrêt après seulement deux petites saisons sur Netflix de la remarquable série Sense8 des Wachowski à laquelle nous avions déjà consacré une émission lors de la première saison. Notre cœur est gros et ce même si depuis on a appris qu'un épisode spécial de 2 heures serait mis en ligne l'an prochain pour conclure la série et ce grâce à la mobilisation des fans dont 3 représentants sont ici présents à l'antenne Paris pour évoquer cette deuxième saison. Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Alexandre Arau, salut Alex.
Salut.
Et David Honora, salut David.
Salut.
C'est nos ciné, épisode 94 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors si vous n'avez jamais regardé Sense8, un conseil, faites une petite pause, regardez les 2 saisons vite fait, revenez nous voir parce qu'on risque de spoiler un peu. Voilà, c'est dit. Cette seconde saison donc nous ramène aux côtés de nos chers Sense8 qui prennent peu à peu la pleine mesure de leur pouvoir et l'ampleur de la menace que fait planer sur eux le très méchant Whispers qui continue à les poursuivre.
Who am I?
Who am I?
Who am I?
You think you're hunting us? We're coming for you.
Oui, c'est un peu compliqué à résumer, donc j'ai fait très très simple, histoire qu'on se perde pas tout de suite. Je passe immédiatement la parole à mes camarades autour de la table. Cette nouvelle saison, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? David, tiens, tu regardes par terre, tu ne veux pas parler, mais tu vas parler quand même.
Non, je veux parler.
Je veux parler, alors, j'ai des choses à dire.
C'est une deuxième saison qui vient justement après une première, et comme tu l'as dit, le concept est un petit peu complexe, et il fallait presque toute une saison pour pouvoir le poser. Et du coup, tout l'enjeu de la deuxième saison était d'exploiter ce qui avait été posé, sachant qu'entre la première et la deuxième saison, il y a eu un épisode spécial de Noël qui était exactement ça, c'est-à-dire un épisode de Noël.
On peut dire, c'était un vrai Merry Fucking Christmas, je crois qu'il s'appelait.
On va pouvoir
Happy Fucking New Year peut-être.
Happy Fucking New Year peut-être.
Je ne sais plus.
Les titres disparaissent sur Netflix à peine tu cliques.
C'est vrai.
Et tout, t'as pas le temps de
c'est
lire. Et donc on va peut-être revenir sur un moment sur cet épisode spécial, mais
qui a été accueilli diversement.
Voilà, qui pour moi avait un peu les problèmes de qu'on peut parfois reprocher à Sense8, c'est d'être plein d'avoir un gros cœur en guimauve, quoi. Et du coup. Des personnages parfois un petit peu archétypaux voire caricaturaux et qui vont parfois en fait servir de support à de très bons sentiments très appuyés, et évidemment dans l'ambiance des fêtes de fin d'année on était un peu au sommet de ça.
Tout ça dégouline un peu beaucoup.
Et donc cette histoire, donc juste pour résumer un petit peu le truc, on a des personnages aux quatre coins du monde qui sont tous connectés par la pensée, qui peuvent intervenir dans la vie et dans l'action de chacun par cette connexion.
Se secourir l'un l'autre.
Et c'est un enjeu à la fois esthétique, un enjeu de montage, c'est-à-dire qu'on a énormément de scènes qui sont tournées en extérieur, ce qui justifie en fait le coût de la série. On est sur une série qui est sur du 8 millions de dollars par épisode, ce qui explique en partie le fait que ça a été annulé par Netflix. C'est une série qui est très coûteuse. Et en fait, à la fin de la première saison, on comprend bien tous les mécanismes et ce que ça va permettre. Ça va permettre notamment de mettre en scène de l'action, du sexe, etc., qui vont faire intervenir les 8 personnages et qui vont d'un cut à l'autre, en fait, nous faire traverser des milliers de kilomètres. Et ce que je trouve assez satisfaisant, c'est que dans cette saison 2, on trouve des nouvelles manières, en fait, d'exploiter ce dispositif. Et on a un certain nombre de scènes d'anthologie qui je trouve, sont hyper intéressantes. Et en plus, on arrive à la fin de la saison 2 avec de nouvelles évolutions dans l'histoire. On découvre au fur et à mesure de la saison qu'il y a plusieurs clusters et à la fin même qu'il y en a des centaines.
Un cluster, c'est donc ce groupe de gens connectés entre eux.
Exactement. Et ça ouvre des perspectives incroyables qui, malheureusement, devront être traitées simplement en deux heures dans l'épisode spécial.
Oui, ça risque de se conclure assez, assez rapidement. Alexandre.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire David, parce que pour moi, toute la réussite de la série, c'est même s'il y a de très bonnes choses du côté de l'interprétation, du scénario, etc., mais c'est la maîtrise formelle du montage qui permet, avec un plan de travail relativement hallucinant de script, de préparation, de storyboard, etc., faire une histoire entièrement visuelle. Parfois, on pourrait presque se passer dialogue. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui sont uniquement musicales. Oui. La musique a un rôle extrêmement important dans la série. On a vraiment des séquences qui sont chant contre chant. Il y a un chant qui est tourné en Inde, l'autre contre chant qui est tourné à Nairobi. Et c'est d'une ambition formelle hallucinante, et ça représente un travail complètement monstrueux. Et qui effectivement s'est illustré dans cette saison 2 par des nouvelles trouvailles, notamment je pense à cette scène un peu dingue dans un restaurant berlinois de gunfight plus combat physique, qui est chorégraphié vraiment comme une comédie musicale par moment, avec
les personnages qui apparaissent, disparaissent dans le dos les uns des autres.
Exactement, et ce côté un petit peu comme des chorégraphies. Ce sont des chorégraphies. Alors déjà de manière générale, on parle de chorégraphie quand il y a des combats qui sont réglés, mais là c'est aussi pas seulement de la baston, c'est carrément quelque chose qui peut s'apparenter à de la danse quand il y a des mouvements qui doivent apparaître en rythme, comme pour montrer les conséquences d'un coup sur les 8 personnes du cluster. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement très satisfaisant. Après, ça reste une série de par son nombre de personnages, a énormément d'enjeux, énormément d'arc narratif. Certains sont plus satisfaisants que d'autres. Il y a des histoires qui parlent de corruption, des histoires qui parlent d'investir dans la lutte politique, il y a des histoires qui parlent de l'addiction. Enfin bon, il y a énormément de choses comme ça. C'est parfois t'as fait tellement d'informations et de sentiments à accepter et à digérer que parfois ça peut ressembler un peu à un Kougloff. Et à la fois, je pense que c'est la série par excellence Netflix, puisque c'est une série qui prend son temps et qui doit vraiment être, on peut la voir comme un long film, donc c'est très bien de l'avoir tous les épisodes, les 12 épisodes d'un seul coup, mais parfois c'est vrai que c'est tellement ambitieux que ça peut être un peu rebutant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas passées, qui n'ont pas dépassé le stade des 2-3 premiers épisodes de la saison 1, ce qui est pour moi un gâchis énorme. Il faut que les gens se prennent un peu par la main, allez au moins jusqu'au 5-6 et puis finissent toute la série pour vous y être.
Donc on y est.
Mais voilà, et bon, moi je trouve que je suis évidemment hyper content, même si c'est un peu un pis-aller et qu'on aurait pu espérer mieux, mais je suis quand même assez content que la mobilisation des fans ait permis de débloquer ce double épisode final. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va devoir ratiboiser les ambitions des Wachowski, sachant aussi que ce qui peut expliquer, mais j'en suis pas certain parce que je ne connais pas exactement les apports de l'une et de l'autre, mais rappelons que cette saison 2 par rapport à la première, la différence c'est que une des deux sœurs Wachowski, donc en l'occurrence c'est laquelle, c'est Lily, a fait une pause et donc n'était pas présente. Oui. C'est la première fois de leur carrière que les deux frangines, ex-frangins ne travaillent pas ensemble. Elle a fait une pause et donc du coup c'est uniquement Lana Wachowski qui a dirigé les épisodes, qui a avec aussi les collaborateurs réguliers, saison, oui. James McTeague, Tom Kitver, etc. Donc peut-être que son absence a forcément eu une importance sur le show qui a été pris en main par sa sœur, mais ça reste quand même, malgré toutes les faiblesses ou les limites qu'on peut dénicher assez facilement, une série qui est extrêmement satisfaisante.
Anaïs.
Comme David, je trouve que la saison 2 était vraiment remarquable parce qu'effectivement, la saison 1, c'était beaucoup de construction, beaucoup d'exposition. Il y a énormément de personnages, donc il fallait tous les connaître individuellement avant qu'ils réussissent vraiment à se croiser tous ensemble. Et effectivement, c'est vrai que le début était un peu difficile et je crois que c'est qu'à partir du 5e ou 6e épisode de la saison 1 qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc effectivement, la saison 2, là, ils ont le champ libre. Tout le monde, on connaît déjà tous les personnages, donc... On est à fond dans l'action. Et bah ouais, du coup, la saison 2, je trouve, est tellement au-dessus de la saison 1 qui était déjà très très bonne, quoi. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'univers est élargi, comme disait David, et notamment avec tous les alliés, en fait, des sensitifs, puisque chacun individuellement a un petit ami, une petite amie, un collègue, un parent qui va les aider. Donc on n'est plus que sur les 8. Et 9, parce qu'il y avait déjà une petite amie Amanita très importante dans la saison 1. On a vraiment élargi le cercle et la saison en est encore meilleure, quoi.
Et y a, en plus, il y a quelque chose dans l'écriture des personnages qui est importante et qui va effectivement dans le sens de ce que dit Anaïs sur le fait que on a l'impression que l'esprit de Sense8 se propage petit à petit à plus de personnages et à plus de monde et éventuellement d'une manière utopique aux spectateurs et du coup au monde entier, c'est qu'en fait les personnages sont construits de telle manière qu'individuellement ils ont finalement assez peu d'intérêt. C'est ce que je disais quand je trouvais certains personnages caricaturaux. C'est vrai que bon, voilà, il y a un personnage, enfin un couple de trans et lesbiennes à San Francisco, une coréenne qui fait des arts martiaux, voilà. Donc il y a des trucs où on est un peu dans le voilà un Allemand hyper masculin, hyper rigide et voilà, une DJ islandaise. Enfin, on est un peu dans des clichés. En fait, l'intérêt des personnages se construit en rapport avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas individuellement que le personnage est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que émotionnellement, notamment, la série décolle dans la saison 2. C'est parce que il va se passer des choses quand deux personnages, trois personnages, quatre personnages vont être associés et vont révéler quelque chose de leur personnalité ou de leur émotion. Il y avait un truc dans la saison 1 que je trouvais assez intéressant et qui était quasiment enfin, pas forcément hyper marqué, hyper souligné. C'est il y a un moment où un des personnages féminins a ses règles et un des autres personnages masculins du cluster ressent les symptômes des règles. Et du coup, il y a des formes de connexion comme ça hyper profondes qui se transmettent. Et il y a un autre exemple comme ça au tout début de la saison 2. Qui va dans le sens de cette ouverture à des cercles plus larges, avec cette scène hyper bien vue où Caféus est en train de conduire son bus Van Damme et avec un des films de Jean-Claude qui tourne à l'écran. Et en fait, le bus est chahuté par la route. Et en fait, on voit tous les passagers du bus qui sont secoués et qui en fait ont des mouvements qui sont connectés avec ce qui se passe dans le film. Et cette image raconte ce qu'est Sense8, c'est-à-dire une connexion qui, d'une manière utopique, serait universelle entre tous les abonnés Netflix et tous les spectateurs du monde entier.
Ouais, et puis ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chaque personnage de la série peut interagir. Et c'est assez marrant parce que, par définition, on a l'impression que les créateurs de la série, les scénaristes, sont un peu dans la position de mixologues, de spécialistes en cocktail, qui ont devant eux 8 ingrédients, minimum, hein, il y en a plus si on compte les personnages secondaires, mais 8 ingrédients qui peuvent voilà, mixer à leur sauce, dire, alors tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'interaction entre l'acteur mexicain gay et le jeune conducteur de van kényan, tiens, on va les mettre dans une scène ensemble. Des fois, c'est pas souvent des associations qui pourraient paraître logiques, mais en fait, si, ça marche très bien. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette dynamique-là de chorale, de groupe, c'est quelque chose auquel on est très habitué dans tout ce qui est sitcom. Je pense, par exemple, on va dire des exemples typiquement bidon de Friends ou I Met Your Mother, où on a voilà, à peu près 6 personnages fixes et qui vont de temps en temps voilà, être coincés dans l'ascenseur, ces deux-là. Voilà,
mis par pair,
exactement. Sauf que là, par définition, Sense8, c'est comme si, on le disait tout à l'heure, c'est une série qui est littéralement tournée aux quatre coins du monde et où les personnages sont dans la réalité, jamais physiquement présents, mais par le biais voilà, du concept même de la série où les personnages apparaissent dans le psyché de l'un ou de l'autre, et ben, il peut y avoir ces réunions-là malgré tout. Ils s'affranchissent de la barrière géographique, physique, et on a donc toute une combinaison possible hein, de voilà de combinaison de choix de caractères, de partenaires, et donc d'interactions différentes selon les humeurs, et sachant que ça peut donner à la fois des scènes parfois extrêmement touchantes, extrêmement badass quand c'est de l'action, ou extrêmement drôles. Il y a des scènes de pure comédie dans Sense8, c'est comme souvent d'ailleurs chez les Wachowski, hein, une variété de tons selon les scènes qui marchent très bien, et de manière générale, comme pour approfondir ce que disait David sur ce qu'on pouvait éventuellement la métaphore qu'on pouvait tirer sur ce que représenterait la communauté Netflix de spectateurs sur l'effet de la série, de manière générale c'est un peu quand même une métaphore sur la création, et en particulier sur la création cinématographique et télévisuelle. Le fait d'être connecté à quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais vu, c'est le principe même d'une série, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ressent de l'empathie pour des gens qu'on n'a jamais vus, des personnages fictifs. Donc finalement, le fait que les spectateurs arrivent, et on l'a vu avec la démonstration formidable des fans de la série, à ressentir autant d'empathie pour des personnages, c'est que la série a fait son œuvre et que les réalisateurs ont bien fait leur coup.
Aussi rajouter, c'est que c'est aussi une métaphore sur la tolérance, en fait, puisque c'est plein de personnes qui n'ont rien en commun à la base, qui ont une barrière de langue, de géographie, d'origine sociale, de genre, de couleur de peau, et en fait qui se retrouvent tous à avoir un point commun et à s'entraider les uns les autres, à faire preuve d'empathie et de tolérance alors qu'ils n'ont rien en commun et qu'ils n'ont pas à la base d'intérêt commun. Et en fait, ça parle aussi de communauté LGBT, de sexualité, d'identité. Et du coup, ça parle aussi de ça, quoi. Ça parle de tolérance. Et la raison pour laquelle il y a énormément de fans qui étaient déçus, c'était aussi pour ça. C'était parce que ça offrait une représentation que beaucoup de gens n'ont pas généralement dans la pop culture, quoi.
C'est important de le préciser. Je pense qu'effectivement, ça a joué beaucoup dans l'amour et l'attachement profond des fans. Je voudrais qu'on dise un mot de. On a commencé à le faire au début de l'émission, de l'épisode de Noël, cet épisode un peu bizarre, un peu bâtard quelque part, enfin qui en tout cas a été accueilli un peu plus fraîchement, moi qui m'a un peu désarçonné dans sa facture en tout cas. David, t'avais commencé à en parler tout à l'heure.
C'est surtout, alors moi rétrospectivement je presque je regrette cet épisode parce que je me dis que je me posais la question, est-ce que ça a eu un impact dans le fait que derrière la série soit annulée ? Est-ce que ça a créé des difficultés ?
Je pense que le problème est plus général dans le sein de Netflix, qui est en train de fermer quelques robinets au passage.
Évidemment, il y a une logique de coûts, et ça coûte moins cher de faire des séries comme Baby je ne sais plus quoi, que j'ai arrêté au bout de 10 minutes, tellement c'est horrible. Alors je dirais que un des problèmes de cet épisode de Noël, c'est qu'il était à la fois dans un abus du côté superfétatoire de l'utilisation et de la mise en scène du cluster, qui en fait en soi, ce qui me paraît le plus intéressant d'un point de vue d'une série, c'est de réfléchir à comment on peut exploiter de manière aussi diverse que possible le concept. Et comme disait Alex tout à l'heure, ça ne sert pas que pour des scènes d'action. Et on peut, du coup, il y a dans la saison 2 notamment une sorte de double discours parallèle qui est construit grâce au mix de personnages. Et qui est émotionnellement hyper puissant, alors que je dirais que les deux discours séparés n'auraient pas eu le même impact. Et en fait, dans cet épisode de Noël, je trouve qu'on reste un petit peu trop peut-être l'aspect un peu revendicatif de la série, qui, je suis d'accord avec Anaïs, c'est hyper important, mais qui, à mon sens, passe mieux et est plus efficace quand il est vraiment complètement intégré à la fois au concept de la série et à la fois à la réalité de ses personnages. Et en fait, tout ce que dit Sense8, c'est une réflexion sur la complexité de l'individu et le fait que c'est absurde d'enfermer les gens dans des cases. Et donc, à plus forte raison, un personnage ne peut pas se définir par par sa sexualité ou par son origine peau, ou sa couleur de peau, etc.
Il y a le problème aussi, c'est que juste le concept même du Christmas Special, qui est quand même un épisode, un genre en soi presque des séries anglo-saxonnes.
De l'entertainment américain.
Voilà, et où tu balances un épisode donc pendant la période des fêtes, et qui en général un poil coupé du reste de la série. Voilà, c'est comme les fêtes de Noël dans la vraie vie, où c'est censé être une sorte de bulle un peu à part du reste du quotidien et tout. C'est un peu le cas dans cet épisode là mais en même temps ils peuvent pas s'empêcher, vu la série, vu les enjeux, de faire avancer l'histoire, ce qui est bien normal, mais du coup ça gâche un peu, enfin en tout cas ça prive un peu l'épisode de cette aura spéciale qu'il aurait dû avoir, et du coup c'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle il est considéré in fine comme le premier épisode de la saison 2 maintenant dans les listings officiels de Netflix. Et du coup, on se peut se demander quelle a été un peu la stratégie. Est-ce que c'était faire un petit cadeau aux fans vous allez pas avoir patienté jusqu'à des mois, ou relancer l'attente et convertir de nouveaux fans, c'est-à-dire forcer, attirer des gens à découvrir la première saison pour se faire l'épisode spécial en question. Comme on le disait tout à l'heure, vu les résultats, peut-être que ça n'a pas eu quand même l'effet escompté. Oui. Donc il y avait peut-être ce choix-là qui était un peu ambitieux, mais qui n'a peut-être pas non plus été facile.
Il arrive peut-être un peu trop tôt, en fait. On n'a peut-être pas eu le temps, justement, de... Enfin, conceptuellement, justement, parce que c'est un exercice spécial, ça a du sens quand on est très, très attaché à un personnage, si je comprends très bien que la série a eu un impact fort qui fait que, énormément de fans se sont très vite attachés au personnage. Je trouve que ça arrive un peu tôt, et surtout, ça casse quelque chose qui était les attentes énormes qu'on pouvait avoir à la fin de la saison 1.
Nice.
Moi, je l'ai vu juste avant de voir la suite, en fait. Je ne l'ai pas regardé à Noël. Je voulais attendre que le reste arrive. Et ça s'intègre parfaitement à la saison 2, en fait, en voyant tout d'un coup. J'ai trouvé effectivement que c'était beaucoup de fanservice, qu'il y a énormément de scènes musicales super touchantes, il y a des scènes d'action. Enfin, il y a
partout, enfin, l'orgie comme dans...
Voilà, exactement. Il y a vraiment tous les ingrédients, en fait, super cool de la saison 1, sans toute l'intrigue chiante, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment que du pur service... de fans, et en même temps voilà, ça lance quand même un peu le début de l'intrigue, parce qu'il y a des points importants, notamment un des personnages qui prend l'héroïne, etc., qui tout ça s'est introduit dans le premier épisode
qui après voilà, a un impact trop important sur le début de la saison 2.
Et en fait, en regardant tout d'un coup, ça m'a pas semblé aussi détaché du reste de la saison que ce que vous avez pu ressentir. Effectivement, en le voyant tout seul, ça a dû être un peu différent.
C'est la meilleure façon de le voir, je pense.
Je pense que tu avais eu raison. Ouais. Avant de se quitter, chers amis, on déroge pas à la tradition, on va prendre quand même le temps pour quelques recommandations. Alors c'est l'été, les gens ont un peu de temps, vous leur conseillez de regarder quoi en ce moment, s'ils ont déjà tout vu Sense8, Alexandre?
Oh là là, alors tu me prends complètement
au dépourvu. T'avais qu'à bosser un peu avant de venir.
Alors du coup, je vais passer dans un.
On peut changer de registre,
c'est ça Sense8. Alors d'ailleurs, en plus, je vais parler d'un truc français, et parce que je pensais que la fin de la saison 2 de Sense8 teaser un peu vaguement un détour par Paris, peut-être que je me trompe complètement, mais je serais pas surpris de les voir passer par la France, mais peut-être que ça va changer vu que c'est un seul épisode. Non, je vais parler d'un truc français qui n'est même pas une fiction, et qui n'est même pas, enfin qui est une série, mais une série d'un format très particulier, un de ces nouveaux formats faits pour les nouveaux usages, les nouvelles consommations, et c'est une série 6x10 minutes documentaire qui s'appelle Biarritz Surf Gang, et qui a été sorti par la plateforme Studio Plus, qui appartient au groupe Canal. Ils ont fait pas mal de fiction dessus, j'en ai vu aucune, j'avoue, mais Biarritz Surf Gang, je l'ai vu, et c'est donc un truc sur une histoire que je ne connaissais absolument pas. Alors je savais que Biarritz c'était une terre de surf par excellence, mais je ne savais pas qu'il y avait une bande, la bande de la plage, la grande plage de Biarritz, qui dans les années 80 était littéralement punk. Les mecs se torchaient aussi bien en faisant les entraînements que les compétitions, ils tabassaient la gueule des Australiens qui venaient leur piquer leurs vagues et leurs meufs, et la série en elle-même, donc cette série documentaire, est faite à la fois d'entretiens avec les survivants, d'images d'archives et d'archives animées façon graphisme old school, un peu punk fanzine américain. Le résultat est hyper surprenant, très très abouti, et c'est assez dommage finalement qu'il soit cantonné à cette plateforme-là qui a encore assez peu d'utilisateurs, mais justement peut-être que ça va en faire parler. Je sais qu'une série qui mériterait d'être vue sur grand écran et pas sur un simple ordinateur de portable ou une tablette. Mais voilà, Biarritz Surf Gang, le premier épisode est facile à trouver gratos sur internet, il a été filé par Télérama et Combini entre autres, donc allez voir si ça vous plaît, mais je pense que c'est une bonne suggestion.
Pas mal, Anaïs.
Pour rester dans Sense8, si vous aimez l'ambition formelle de Sense8 et le nombre de personnages très importants bah, regardez Twin Peaks saison 3. Je pense que vous ne pouvez pas faire mieux en termes de série très, 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 très ambitieuse et complètement barrée. Et sinon, une série qui est un peu moins connue, mais qui entame sa quatrième et dernière saison en août, il me semble, c'est Halt and Catch Fire, sur le boom de l'informatique dans les années 80 aux États-Unis. C'est super cool. C'est des saisons de 12-13 épisodes, donc ça se regarde assez vite. C'est vraiment génial. Ça démarre un peu comme Mad Men dans les années 60, sauf que là, c'est dans les années 80 avec des ordinateurs. Et c'est super cool. Voilà. Et c'est féministe.
C'est disponible sur quelle
Alors, ça vient de AMC. Voilà.
Okay. Donc sur Internet.
Sur Internet. Ah, sur voilà. Internet. Débrouillez-vous.
On dira, débrouillez-vous. Non, soyez
non,
des grands.
C'est
David.
Pas sur Canal.
Non, ça passe sur Canal.
Non, c'est vrai.
C'est vrai.
Ça passe sur Canal.
Abonnez-vous à Canal+. David.
Mais ils ont peut-être une saison de retard.
C'est possible.
Moi, je voulais vous recommander, je ne sais pas si vous connaissez ces petits comiques qui sévissent dans le quotidien et qui ont sorti un film.
Bad Buzz.
Non, je rigole. Oubliez, n'y allez pas, surtout
j'ai
pas.
J'ai très, très peur. Là,
j'étais absolument pas prêt pour une recommandation, mais du coup j'ai cliqué sur mon profil Netflix et à un clic de Sense8.
Je vous conseille Le Parrain.
Il y a une autre.
Moi, moi, c'est Méchant 2.
Une autre série dont la saison 2 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la saison 2 de Master of None, qui est l'excellente série d'Aziz Ansari qu'on a pu repérer dans Parks and Recreation.
Notamment.
Une autre excellente série qui. Était déjà un peu dans l'esprit de The Office, donc là on remonte un peu l'arbre généalogique de Aziz Ansari et donc cette saison 2 commence par un épisode en noir et blanc en Italie dans lequel Aziz Ansari parle italien, il s'est apparemment bien entraîné.
Allora.
et l'épisode est une sorte de variation de remake sur Le Voleur de Bicyclette. Qui est par ailleurs un film extraordinaire qu'il faut absolument voir. En partant de ça, qui en soi est peut-être une idée un petit peu prétentieuse ou un petit peu relou de l'Américain qui vient s'approprier l'héritage culturel européen vu de loin comme quoi l'Italie ça serait juste des scooters et des pâtes. Je trouve qu'il en fait quelque chose d'assez intelligent et qui arrive à trouver dans les aspects narratifs qui pouvait y avoir dans le film original le rapporter en fait aux problématiques de sa série qui sont beaucoup des first world problems, c'est-à-dire il peut rien lui arriver de pire dans
hipster.
Sa vie que de plus avoir de batterie sur son sur son iPhone et il arrive assez bien à lancer sa série de cette manière et puis derrière il y a son ton que je trouve hyper bienveillant, hyper généreux et une vision de la modernité qui vaut le détour. Voilà, c'est drôle et c'est sympa.
Et Master of None saison 2 c'est sur Netflix, tout comme la saison 2 de Sense8 et la première saison et même le Christmas Special de Sense8. Notre temps est écoulé. Sense8, c'est comme ça qu'on dit. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. En attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizi. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun. My lady jump.